Le journal était signé Julien Lagache, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. DSK, procès, Sofitel, FMI, prostitution, Carlton, égale frénésie médiatique. C'est un bon sujet, DSK, pour les journalistes et, il faut bien le dire, aussi pour les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs et les internautes, avec des articles et des reportages qui ont varié, dont la tonalité a changé en fonction des événements incroyables que nous a réservés et donné à commenter le feuilleton Dominique Strauss-Kahn. DSK, aujourd'hui mal aimé, pour reprendre une partie d'un titre du journal Le Parisien de cette semaine. DSK, également regretté, il aurait fait un bon président pour les Français selon un sondage réalisé avant le procès du Carlton qui s'est ouvert cette semaine à Lille. Comment la presse a-t-elle parlé de Dominique Strauss-Kahn? C'est notre sujet ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Emeline Cazzi, journaliste au Monde. Bonjour. Françoise Degoy, chroniqueuse sur iTélé et auteur du livre « Quelle histoire ?» Ségolène Royal et François Hollande chez Plomb, paru l'été dernier. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Antoine Maret, grand reporter à France Culture et est également avec nous en studio. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et on rejoindra en cours d'émission en duplex par téléphone Axel Krause, correspondant du Transatlantique Magazine et président de l'Association de la presse anglo-américaine de Paris. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans Le Secret des Sources. Mariette Darigrand, notre sémiologue très écoutée du secret, et Thibaut Henton, très écouté aussi pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec cette semaine aux manettes derrière la console d'Ophar Guéride, le clin d'œil de Nathalie Lopez, rendez-vous incontournable en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le Secret des Sources.
Madame, Monsieur, bonjour. Principale actualité de ce dimanche, ce coup de tonnerre pour la classe politique française et l'opinion publique, même mondiale, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn hier à New York.
Une inculpation très grave pour agression sexuelle, séquestration de personnes et tentative de viol. Le patron du FMI a décidé de plaider non coupable.
Une femme de ménage de 32 ans vient de porter plainte. Elle raconte avoir été agressée sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. Le patron du FMI a été placé en garde à vue et interrogé dans ce commissariat de Harlem.
L'affaire du Carlton, DSK mise en examen pour proxénétisme, libéré sous contrôle judiciaire hier soir. Dominique Strauss-Kahn nie tout en bloc. Selon son avocate, nous sommes à Lille au début de ce journal.
Voilà extrait des journaux télévisés, notamment TF1, le 15 mai 2011, après l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, accusé d'agression sexuelle par une femme de ménage du Sofitel. Et également un extrait du journal de 7h30 sur France Inter, le 26 mars 2012. Coup de tonnerre, c'est le terme que l'on a entendu, qui a été employé par les journalistes. Emeline Cazzi, du journal Le Monde. Cela nous paraît, à ce moment-là, tellement incroyable, cette information. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une information pareille? On travaille sur l'hypothèse de l'agression sexuelle ou on essaie de donner corps aux doutes? Non, le mot d'ordre, c'est prudence.
On travaille comme avec toute information, même aussi invraisemblable. On essaye de vérifier, on contacte. En fait, c'est comme un fait divers au départ. Effectivement, c'était une personne qui allait être candidate à la présidentielle. Mais comme un fait divers, on essaye de se rapprocher des sources policières, judiciaires, pour vérifier. On essaye de contacter la défense de Nafissa Toudialo. Voilà, là, c'est pour essayer de vérifier les informations. On essaye de contacter aussi le parquet à New York. On envoie quelqu'un, un envoyé spécial, pour aller voir ce qui se passe là-bas et pour Et après, évidemment, il y a toutes les réactions socialistes, puisque c'est un événement politique. Mais au départ, on essaye juste de vérifier l'information.
Mais ça part comme un fait divers, malgré la personnalité de Dominique Strauss-Kahn ?
C'est une information qui tombe le week-end, donc nous on doit préparer, on est au Monde, on doit préparer, il n'y a pas d'édition le dimanche, on doit préparer l'édition du lundi matin. On a le temps d'envoyer quelqu'un, on a le temps à Paris d'appeler tout le monde et de voir, mais enfin avant tout, oui, ça, c'est un fait divers, même si c'est une dimension dingue parce que c'était le candidat du PS, probable du PS. Il faut vérifier, mais tout de suite, effectivement, on brègue la théorie.
Et le calendrier fait que vous avez le temps quand même de prendre un peu de recul, de vous poser et
d'enquêter. On a une journée, même pas. Enfin, on n'a plus forcément non plus le temps. Tout est sur les chaînes d'infos, on a le site internet, il faut alimenter le site.
Françoise Degout, alors à l'époque, vous menez une parenthèse dans votre métier de journaliste, c'est votre deuxième vie. Vous êtes conseillère spéciale auprès de Ségolène Royal. Le PS réagit comment comme
alors,
la presse
si c'est, je revois, c'est, je me dis il y a à peine 4 ans, mais on est dans un effet de sidération. Moi, je me souviens, alors pour le coup, je l'apprends, je suis encore en train de travailler au cabinet, je l'apprends, il est 2h du matin. Donc, il se trouve que Ségolène Royal, c'est la première personnalité politique qui va s'exprimer dans la journée parce qu'elle est invitée d'un éminent confrère à vous, Jean-Pierre Elkabbach, sur Europe 1. Donc, c'est elle qui va donner faire la première réaction officielle. Et là, c'est très dur parce que j'entends ce que vous dites, Emeline, c'est vrai que là, il n'y a aucun temps de réaction possible, il n'y a pas le temps, il faut y aller dans l'arène. Et je me souviens très bien que je la préviens à 5h du matin, quand même, je laisse un peu... Et elle est déjà au courant. Et en réalité, elle va réfléchir, et c'est un moment qui est assez sidérant, d'abord parce qu'on comprend tout de suite que c'est fini pour Dominique Strauss-Kahn, c'est très vite. Donc la personnalité...
Vraiment, Françoise Degout ?
Dans l'instant, ah oui, évidemment. D'abord, même si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est pas le problème. À partir du moment où il y a... la politique, c'est pas le vrai, la politique, c'est le vraisemblable. Vraisemblablement, à partir du moment où Dominique Strauss-Kahn est entraîné dans ce qu'on voit tomber, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès le milieu de la nuit, ça commence. À partir de ce moment-là, il y a une évidence, c'est que le favori de la primaire socialiste n'est plus. Et là, c'est très compliqué, parce que en quelque sorte, un cerveau politique, ça va vite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on réagit? Et je me souviens très bien de cette matinée où Ségolène Royal, je crois que on va lui poser 22 fois, j'ai compté la question. Est-il coupable ou pas? Est-il coupable ou pas? Et là, rester pendant 22 fois, dire je n'en sais rien. Le problème du politique à ce moment-là, c'est le temps et c'est le manque d'informations. Et c'est surtout ne pas donner le sentiment qu'on a déjà enterré quelqu'un qui, de toute façon, on le sait, est déjà mort. Et ne pas donner le sentiment non plus qu'on part à la recherche de ses soutiens. C'est très compliqué à faire sur le plan politique.
Alors Antoine Maretz, à l'époque, pour France Culture, vous partez à New York.
Donc en juin, il y a des audiences. L'affaire est déjà bien installée dans l'esprit des gens. Il y a l'audience, moi j'y vais pour là où il plaide non coupable. Et on discute, le soir on se retrouve à New York avec des journalistes, de la presse écrite, d'autres radios, de la télévision. On discute de cette affaire, là on est début juin, et là tout le monde, chez les journalistes, moi y compris, on est persuadé qu'il y a bien eu tentative de viol dans cette chambre-là. La question est comment ça s'est passé, les détails, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite...
Mais vous êtes persuadé sur la base de quelles informations
Parce que c'est dans l'air du temps, il n'y a pas eu beaucoup, la défense n'est pas encore bien structurée. Et là, on ne connaît pas encore Nafissa Toudialo, on ne connaît pas encore bien son identité. Enfin, l'identité, on la connaîtra, je crois, début juin. Et donc, on ne connaît rien sur cette personne. Et la défense va attaquer la personnalité de Nafissa Toudialo. Et donc, dans l'esprit des gens, bah oui, il y a forcément eu ça. Et puis, on connaît sa réputation. Donc là, il est allé trop loin. Les débats entre les journalistes, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, etc. Mais sur la culpabilité, à ce moment-là, il n'y a pas de doute. Et après, les choses vont se renverser.
C'est vrai que là, en avril, on est... J'allais dire choqué, en tout cas surpris, certains choqués, de voir DSK menotté, mal rasé, l'imperméable mal ajusté entre trois, encadré par des policiers. Est-ce que inconsciemment, Emeline Cazzi, est-ce qu'inconsciemment, cela ne renforce pas pour les journalistes français un côté victimisation de DSK en voyant ces images?
Mais en fait, ces images, ça a choqué beaucoup de monde en France. C'est le fameux perwalk américain, où on le voit menotté, et ce qu'on ne voit pas du tout en France, on ne montre pas de prévenus menottés, mais c'est très fréquent finalement aux États-Unis. Il faut rappeler que le système judiciaire américain est accusatoire, en fait. Donc, c'est le procureur qui porte l'accusation. La défense se fait très discrète et c'est pas forcément, c'est pas propre à l'affaire Strauss-Kahn, c'est assez fréquent.
C'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de progrès sur le système judiciaire américain en France à cette époque.
Voilà, en fait, il y a plein de choses qui arrivent que nous, on ne comprend pas, en fait. Finalement, le système américain, c'est deux thèses, deux récits qui s'affrontent, alors que... Mais c'est très ouvert. En France, c'est secret, c'est un juge d'instruction qui va instruire à charge, à décharge. Dans son cabinet, il va entendre les personnes. Normalement, voilà, ça ne va pas être public. Aux États-Unis, on monte ça sur les télés, on monte le prévenu menotté, on va le voir, il va y avoir des photos de lui en t-shirt orange, je n'étais plus en prison. Voilà, en fait, c'est ça aussi qui choque beaucoup au départ.
Alors, je crois qu'en France, vous allez peut-être me corriger, mais on n'a jamais autant rappelé qu'à l'occasion de cette affaire du Sofitel, on n'a jamais autant rappelé qu'un accusé est toujours présumé innocent. Mmh. La présomption d'innocence, eh bien, on en a beaucoup parlé au moment de cette affaire, peut-être plus que dans d'autres affaires, François Dubois.
Oui, c'est sûr, mais la réalité, c'est que ces images-là, elles sont... Moi, je n'ai pas du tout senti une victimisation de Dominique Strauss-Kahn. Je pense que c'est une condamnation immédiate. C'est-à-dire que ces images appuient, je pense, probablement dans le sens de ce que raconte Antoine Maret, de cette espèce de climat de culpabilité. Et on a beau, je vois bien toutes les déclarations politiques, alors là je suis de ce côté-là de la barrière, vont dans le sens de reclouer en permanence dans le discours la présomption d'innocence, etc. Pour essayer, mais c'est un arrosoir si vous voulez, c'est un arrosoir contre un incendie de forêt dans l'Oregon. Enfin, c'est trop tard, c'est fini. Quand je dis vraiment, il est coupable. De toute façon, les images du type en combinaison orange façon Guantanamo, mal rasé, avec la réputation sulfureuse. À la limite, ça n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu l'affaire au FMI et s'il n'y avait pas eu aussi dans les rédactions. C'est sa réputation qui le tue aussi, Dominique Strauss-Kahn.
Là, on parle d'agression sexuelle, c'est un ton au-dessus, enfin c'est grave.
C'est très grave. Alors, la présomption d'innocence, elle est là, mais en réalité, ce que je ressens, moi, c'est que tout le monde se dit « oui, mais il est possible que quand même ouais. ». Voilà. Et ça, c'est dommage pour Dominique Strauss-Kahn, vraiment.
Et à l'époque, on a aussi beaucoup donné la parole aux personnalités qui défendent DSK.
Moi, je ne crois pas au viol. Hein. Pour un viol, il faut un couteau, un pistolet, etc. Je ne crois pas au...
Pas forcément, enfin, il faut forcer. Violer, c'est aller contre l'autre volonté. Donc
oui, vous avez vu la taille des deux elle est... Bon, enfin bref.
Donc on ne sait pas, on ne sait toujours ce qui s'est passé. On ne sait pas.
Oui,
est-ce que ça ne vous gêne pas de ne pas savoir?
Je vais vous dire, il a manqué une question que moi j'aurais posée. Qui a fait des avances à qui? Et je m'arrêterai là.
Jean-François Kahn.
Je crois, je ne me souviens plus si je l'ai dit ou pas, mais...
Oui,
je,
vous l'avez
je,
dit.
Non, mais je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas, ça. Je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire. Un troussage. Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, c'était pas bien, mais... c'est une impression.
Alors, on vient d'entendre les journalistes Yvan Levaille chez Pascal Clark sur France Inter le 6 octobre 2011 et Jean-François Kahn dans Les Matins de Marc Voinchet sur France Culture le 16 mai 2011 et il lâche donc cette expression troussage de domestique. Jean-François Kahn expliquera ensuite que cette formule est une connerie et qu'il a parlé ce matin-là sous le coup de l'émotion. On réagit comment au Parti Socialiste?
Très mal, très mal. Et en plus de ça, je pense que Mariette peut-être nous en dira plus, mais il faut toujours se placer du point de vue fille ou garçon. Je crois qu'on a surtout entendu des garçons défendre Dominique Strauss-Kahn, des hommes. Et je crois que chez les femmes, en tout cas politiques, pour celles que je connais, pas simplement Ségolène Royal, vraiment la déclaration de Jean-François Kahn, c'est tout simplement insupportable. En réalité, mais pas simplement, la défense de Dominique Strauss-Kahn, elle est tout simplement impossible jusqu'au bout, parce que on en arrive à, si t'as été violée ma pauvre fille, c'est que tu l'as bien cherchée. Il y a quelque chose là qui est très différent homme-femme, dans la façon même chez le personnel politique de s'emparer de cette affaire et d'en parler.
Moi, je voulais ajouter, on entend Yvan Levaille qui dit qu'un viol, c'est avec un couteau ou un pistolet. Donc, effectivement, Yvan Levaille est un grand journaliste. Il faut aussi rappeler que c'est l'ex-mari d'Anne Sinclair qui est très proche de la famille, qui est resté très proche du couple, et en fait qui se fait le meilleur avocat de Dominique Strauss-Kahn en fait, pendant toute cette semaine. Et il vient défendre avant tout Anne Sinclair, et il vient défendre le couple Strauss-Kahn. Avant d'être journaliste.
Axel Krause nous a rejoint en cours d'émission. Axel Krause, donc, vous êtes le correspondant à Paris du Transatlantique Magazine. Sur cette affaire du Sofitel, quel est le regard des journalistes américains sur les comptes rendus faits dans la presse française? Est-ce que vous trouvez la presse française un peu trop prudente?
Non, je trouve que la presse française suit ce qu'ils pensent et l'intérêt de leur lecteur. Mais en ce qui nous concerne, moi j'ai demandé à quelques collègues à la télévision américaine, CNN, et même une chaîne allemande, ZDF, et tous les deux ont exactement la même réaction que nous. Ça veut dire nous, les journalistes américains et étrangers à Paris. L'affaire Lille-Carlton est vraiment une affaire de troisième zone. C'est sans intérêt, sauf pour DSK éventuellement. Mais encore une fois, ils ont tous les deux, ZDF et CNN et beaucoup d'autres chaînes, ont simplement filmé le premier jour et ils attendent la semaine prochaine pour voir un peu ce que DSK finalement va dire, parce que jusqu'à maintenant, il a pas témoigné. Mais l'intérêt, grosso modo, le grand intérêt qu'il y avait pour une certaine presse américaine, a disparu. C'était l'affaire Sofitel qui a plongé DSK devant les Américains comme un homme difficile à saisir et comprendre. Comment il aurait pu être si imprudent, etc. Et pour terminer un peu avec ce que vous venez d'évoquer avec Yvon Levaille et l'intérêt pour Anne Sinclair, effectivement, pour beaucoup d'Américains, il y avait deux femmes dans cette histoire. Je parle là de l'affaire Sofitel. Il y avait deux femmes qui intéressaient énormément les médias et surtout les organisations féminines aux États-Unis. C'était d'abord Madame Diallo, l'Africaine de Guinée, qui était la victime, qui a accusé DSK pour viol, etc., et Anne Sinclair, qui était très, très digne et très prudent et réservée dans ses déclarations, la façon qu'elle se conduit comme la femme, parce qu'ils étaient mariés à l'époque, maintenant divorcés, mais elle a bien défendu son mari avec cette discrétion. Ça a beaucoup frappé beaucoup d'Américains et beaucoup d'Américaines.
Antoine Maret, vous voulez intervenir.
Je confirme ce qui vient d'être dit à propos du procès de Lille. J'y étais cette semaine. Le premier jour, au moment où est apparu Dominique Strauss-Kahn pour la première fois, il y avait un nombre de journalistes très impressionnant du monde entier. Et le deuxième jour, frénésie médiatique. On était vraiment très très nombreux. Et le deuxième jour, il n'est plus là. Et là, il n'y a plus que quelques journalistes de la presse nationale, régionale. Et il va donc s'exprimer pour la première fois la semaine prochaine, donc mardi. À partir de mardi. Et là, on peut penser qu'effectivement, il y aura de nouveau des journalistes de la presse étrangère. Il continue quand même si cette affaire est moins importante, évidemment, que celle du Sofitel, il continue quand même à susciter l'intérêt de la presse internationale.
Alors, avant de revenir sur le procès Carlton Aline, revenons sur le feuilleton Sofitel qui nous tient vraiment en haleine. Et on arrive à l'intervention de Dominique Strauss-Kahn au journal de 20h sur TF1. Le 18 septembre 2011.
Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, ce n'est pas moi. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier.
Voilà, Dominique Strauss-Kahn, faute morale. Axel Krause, il a raison lorsqu'il dit que le procureur l'a blanchi, en quelque sorte.
Non, il n'a pas blanchi dans le sens que il a trouvé innocent. Je crois, lui, comme beaucoup d'autres responsables, À l'époque, j'ai parlé avec beaucoup de pénalistes français et américains, et tout le monde était persuadé qu'il était coupable d'avoir agressé la femme en question. Mais c'était curieux. Vous savez, il a donné une interview avec un collègue, Richard Quest, de CNN, qui a une très grande émission sur les affaires économiques l'année dernière. Et c'était, je crois, la première fois que Dominique Strauss-Kahn, qui parlait parfaitement bien anglais, a fait une longue interview avec quelqu'un comme Quest à CNN. Bon, la majorité de cet entretien était orientée vers des questions économiques. Là, il faut dire, Dominique Strauss-Kahn est très très fort. Moi, je l'avais toujours admiré. Il était formidable comme pédagogue et il a cette capacité, cette charisme, cette jachte qu'il a pour s'exprimer. Et il a expliqué dans cette interview avec Quest, je reviens, c'était l'année dernière à Paris, il a insisté sur deux choses qui avaient beaucoup frappé Strauss-Kahn. La première chose, c'était ce que lui a considéré comme une humiliation devant les millions de téléspectateurs ici et dans le monde, c'est le perk walk. Ça veut dire la présentation, cette petite balade qu'il a fait menotter devant les caméras. Et il a dit que c'était pour lui presque traumatique. Je ne me souviens pas exactement de ses paroles, mais il était très, très touché, même l'année dernière.
Mais comme vous le savez, avec cette creuse, on n'est pas du tout habitué à ce genre d'image en France. Hein.
Non, mais aux États-Unis, c'est parfaitement légal, c'est absolument courant. On a vu des grandes stars de Wall Street, des financiers, on a vu des gangsters. Bon, c'était le premier point que Strauss-Kahn a évoqué, c'était à la fin de cet entretien avec CNN. Et la deuxième chose qu'on lui a posée comme question, c'est que, M. Strauss-Kahn, est-ce que vous croyez que c'était un complot monté, un coup monté contre vous? Et il y avait une seconde ou deux de silence, et Strauss-Kahn a simplement répondu en disant « J'ai mes doutes. I have my doubt ». Et c'était intéressant parce que beaucoup de gens continuent à penser que c'était un complot pour le déstabiliser et sa compagne. Et ça, c'était aussi un point d'intérêt pour les médias américains. Strauss-Kahn, peut-être un futur président de la République française.
Alors, lorsqu'on a entendu Dominique Strauss-Kahn à l'instant, c'était donc le 18 septembre 2011 au journal de 20h de TF1. Et le 18 septembre 2011, nous sommes 6 mois avant que n'éclate l'autre affaire dite du Carlton et la mise en examen à l'époque pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée en mars 2012. Éline Gazi.
On est en fait quelques semaines, même pas, parce que l'affaire du Carlton, elle éclate 15 jours après.
C'est la mise en examen.
C'est la mise en examen qui intervient plus tard, mais oui. En fait, les premiers papiers, c'était vraiment, c'est début octobre 2011. Et je ne serais pas étonnée en fait, que Dominique Strauss-Kahn, à ce moment-là, mi-septembre 2011, en fait, sache qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, parce que ça commence à bruisser. Il n'y a rien qui bruisse avant. Il faut être clair là-dessus, parce que la théorie du complot, elle est revenue là encore juste avant l'ouverture du procès du Carlton. Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui dit « J'ai toujours cru qu'il y avait, enfin, pensé qu'il y avait quelque chose de louche. »
Elle revient avec
les écoutes administratives. Mais les écoutes administratives, le rapport de la CNCIS en 2013 dit qu'il y a 6100 écoutes administratives autorisées en 2013 pour délinquance en bande organisée, enfin crime. Enfin, c'est juste en fait classique avant d'ouvrir une enquête préliminaire. C'est-à-dire que les policiers, quand ils font une enquête, ils doivent aller convaincre le procureur ou le juge de dire il faut déclencher une enquête. Il faut qu'ils arrivent avec des billes, donc il faut qu'il y ait des écoutes, il faut qu'il y ait un peu d'enquête avant de déclencher et de mettre des magistrats sur... sur ça.
Françoise Degoy,
surtout, c'est la limite de ce qu'on appelle les éléments de langage et la communication politique. Je pense que l'intervention de Dominique Strauss-Kahn, elle est complètement pathétique en septembre 2011. Ça sonne faux. C'est vraiment... Et puis, ce qui revient aujourd'hui, il y a toujours cette arrière-pensée. Il y a toujours ces sondages secrets qui traînent. Et ce fameux adage qui dit que finalement, en politique, on n'est jamais mort. Et si un jour, Dominique Strauss-Kahn pouvait être lavé, éventuellement, je pense et je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent à ça. Et on peut même imaginer, je suis certaine de ça, qu'il y a peut-être même des gens qui commencent éventuellement à travailler à ça. Dire que Dominique Strauss-Kahn est définitivement fini pour la politique, je pense que, moi je le crois. Mais je pense que certains ne le croient pas. Donc il faut faire aussi tous ces mots. Je trouve ça pas bien. J'aime bien Cambadélis, mais je trouve ça pas bien de recommencer sur le doute. Tout le monde savait que Dominique Strauss-Kahn avait une faiblesse. Cambadélis est le premier et fait partie de ces gens qui n'étaient probablement pas au courant de tout ce qui se passait avec le Carlton, mais qui n'a eu de cesse que d'avertir Dominique Strauss-Kahn quand il est parti aux États-Unis. Attention, Dominique, aux États-Unis, ce qui passe ici ne passe pas aux États-Unis. Donc, cette espèce de c'est un peu, c'était pas bien, c'est même malsain de continuer à entretenir la théorie du complot, j'y crois pas une minute. Mais je vois surtout qu'il y a quelque chose de rassurant dans cette affaire, c'est que la communication politique que nous a imposée pendant des années, la compagnie et l'entourage de Dominique Strauss-Kahn, mais elle a une limite. C'est-à-dire que cette limite-là, elle a craqué sous le poids des événements et qu'ils n'ont pas pu cacher à 100% au fond ce qu'était Dominique Strauss-Kahn. Et ça, c'est rassurant pour la politique, je pense.
Et donc, le procès du Carlton à Lille s'est ouvert lundi dernier.
Qu'est-ce qu'il a dit, le président? Il a dit il n'y aura pas de détails graveleux, il n'y aura pas de morale ici. Ici, on va faire du droit. Chacun pourra s'exprimer comme il le veut. Et ce sont des mots que, effectivement, on avait envie d'entendre. On va quand même rappeler que ces jeunes femmes étaient majeures, consentantes, qu'elles ont été plutôt bien payées, qu'elles étaient escort girls. Alors moi, je ne dis pas que c'est rien, je ne dis pas que ces jeunes femmes ont fait cela par plaisir et qu'on est prostituées par plaisir, mais je dis qu'on n'est pas non plus dans un dossier d'agression sexuelle ou de viol, qu'on ne peut pas tout mélanger.
Ce matin, j'ai constaté que dans la presse, on avait dévoilé ma vraie identité. Je ne comprends pas et je n'entends pas l'intérêt de placer mon nom et mon vrai prénom au bout d'une liste en disant « Jade, deux points ». Je ne vois pas ce que ça peut procurer ni au public, ni aux médias de savoir ça. Et cet après-midi, à la pause du midi, j'ai pu observer que le Parisien avait retranscrit la totalité de ce qu'on avait dit à la barre, alors que le président a demandé que pour le bien-être et la sérénité des débats, que chacun, avec son libre arbitre, fasse les choix dans ce qu'il devait diffuser ou pas. Et je me rends compte qu'il y a certains journalistes qui ont toujours encore rien compris. Je peux juste leur dire qu'ils sont blessants par rapport aux familles. Les journalistes pourraient un peu mieux trier ce qu'ils publient. Je peux entendre qu'il faut informer le public. Mais avant tout, vous, journalistes, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça apporte quelque chose à quelqu'un de donner des vraies identités, de donner des détails croustillants? Enfin, mettez-vous à la place d'une mère, d'une cousine, d'un cousin, d'une sœur, de vos proches qui seraient dans cette situation. C'est déjà assez compliqué de s'imaginer qu'une maman, une sœur ou une tante ou une cousine a dû s'adonner à la prostitution. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche.
Voilà, on a entendu au téléphone Maître Éric Dupont-Moretti, avocat de David Roquet, l'un des prévenus. C'était sur France Info mardi dernier. Et également Jade, une ancienne prostituée, partie civile au procès, que vous avez pu interroger, Antoine Marette, en exclusivité. Alors vous nous disiez, Antoine, qu'à l'ouverture du procès, il y avait vraiment une frénésie médiatique. Est-ce que les journalistes se demande ce qu'il faut dire, ne pas dire, ou tout est bon à retranscrire? Est-ce qu'il y a un débat?
Cette femme qui le dit très bien, certains journalistes ont dévoilé son identité au lieu de donner son pseudo Jade. Certains journalistes aussi ont même publié sa photo. Or, c'est une femme qui, depuis plusieurs années, a refait sa vie. Elle a des enfants, elle a un métier, et donc elle met en cause la déontologie de certains journalistes. Maintenant, on va dire qu'après son témoignage, qui était vraiment très émouvant, la première fois qu'elle s'est exprimée, c'est une femme qui a beaucoup d'intelligence et qui a une vraie force en même temps qu'une vraie sensibilité. Tous les journalistes se sont plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas donner son nom et qu'il ne fallait pas forcément donner de détails croustillants, comme elle dit, sur ce qui s'est passé plusieurs fois.
À Émilie Casillo-Monde, est-ce qu'il y a un débat sur ce procès? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Fallait-il le couvrir?
En fait, ce débat, on l'a eu depuis 2011, depuis le début de l'affaire du Carlton, dans la mesure où, en fait, j'ai suivi l'instruction judiciaire avec Ariane Chemin. Et pendant des mois, notamment relayé par la défense de Dominique Strauss-Kahn, on s'est pris des insultes. Vous êtes des pudibondes bourgeoises, c'est horrible ce que vous faites, vous dévoilez la vie privée, vous violez le secret de l'instruction auquel on n'est pas tenu. Et puis on ne nous pose pas cette question quand on raconte quand on traite les affaires Sarko ou de santé publique, ça pose pas de problème. C'est surtout, on a eu ce procès pendant des semaines et des mois. La presse s'est très mal comportée dans cette affaire. Or, on va voir, je ne sais pas ce qui va se passer à l'audience mardi ou mercredi, mais en fait, les journalistes qui suivent cette audience et qui ont eu entre les mains l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, en fait, se rendent compte maintenant que la presse qui avait connaissance des éléments du dossier, n'a raconté qu'un pour cent, en fait, de ce qu'il y avait vraiment dans ce dossier judiciaire et de ce qui se passait dans ces soirées.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Maria Darigrand, alors cette expression « troussage de domestique » est très révélatrice de l'idée que l'on a en France de la vie sexuelle des hommes politiques, une vie très active et très érotique, c'est un peu ce que l'on a en tête.
Oui, probablement. Alors ça, le fait que le chef, en quelque sorte, soit, disons, plus viril, très viril même, on peut penser à Poutine, on peut penser, il n'y a pas qu'en France, hein. C'est assez universel, c'est une espèce de représentation, disons, archaïque, dans tous les sens du terme. Ce qui s'est passé avec depuis l'affaire DSK, il me semble, c'est sous l'angle de la culture française, c'est un peu autre chose. Hein. C'est pas tellement que l'homme politique doit avoir peut-être un phallus que n'aurait pas le simple mortel, mais c'est ça. C'était une discussion, surtout parce que la scène originale se passait aux États-Unis, ça a été est-ce que nous, Français, on peut être un petit peu différents des puritains. Il y a eu vraiment cela et ça a été, à mon avis, très mal posé. Alors, l'exemple type, c'est le mot « libertin ». Le mot libertin a été employé parfois, et la métaphore malheureuse qu'on a entendue tout à l'heure sur le troussage de domestique renvoyait à cela. Le mot libertin, aujourd'hui, dans le grand public tel qu'il est, en effet, c'est un peu Versailles, les gentilshommes, voilà, la liberté qui, toujours en France, est positive. Donc, c'est une espèce de 68 art hédoniste, plus. Et dans ce cas-là, le libertin est tout à fait, c'est tout à fait normal. Et même, il est, en quelque sorte, défendu contre ces affreux Américains puritains. Or, quand on fait un peu d'histoire culturelle, soyons français jusqu'au bout, mais il faut vraiment l'être. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est tout à fait intéressant, c'est que le libertin, c'est complètement l'inverse. Le libertin, c'est un cérébral, c'est un philosophe et c'est même au départ quelqu'un qui fait de la théologie. Donc le plus grand libertin de notre histoire culturelle sont des protestants. Je vous l'apprends, Frédéric, c'est tout à fait savoureux, je trouve. Donc le libertin est quelqu'un qui pense tellement la liberté et qui la place tellement haut que même Calvin, son autorité doit être remise en cause. Voilà le libertin à la française. Alors, quand on lit, le mot a été beaucoup employé, et parfois dans les bons papiers du monde, le libertin, Dominique Strauss-Kahn, libertin, avec parfois des connotations qui pouvaient être implicitement négatives, ce qui ne va pas, c'est qu'on confond les époques. Quand on prend le mot libertin comme cela, on prend le mot tel qu'il est aujourd'hui dans la grande consommation, en gros, la lingerie libertine, etc. Donc, on fait une sorte de confusion, dont on ne sait plus au départ, à la fin, si c'est positif ou négatif, c'est-à-dire est-il coupable ou pas. Et en tout cas, on fait, à mon avis, une hyperbole, une exagération du discours qui ne fait pas avancer. Mais du coup, on n'a pas reproché quoi que ce soit aux journalistes, sauf peut-être perdre l'occasion de faire un peu d'histoire culturelle et de revenir à l'historique des mots, et puis d'interroger, par exemple, des historiens du 18e, qui en France sont très bons, je pense à ce que fait Arlette Farge par exemple, qui rappelle très très bien que non, là il y a contresens.
Alors Mariette, on a aussi beaucoup parlé d'addiction.
Alors ça c'est tout à fait intéressant, parce que l'addiction c'est un mot qui nous vient des États-Unis justement, sexual addict, alors DSK serait ou un libertin ou un addict. Et là, alors il faut revenir encore plus loin que le 18e ou le 17e, il faut revenir dans le monde romain, parce que l'addictus comme le libertinus, sont des esclaves. C'est vraiment intéressant. Mais le libertinus, il s'appelle comme cela, il incarne la liberté parce qu'il va être affranchi, et donc il est en voie de libération, il va devenir un citoyen, il aura le droit de vote, contrairement aux femmes. Et l'addictus, qui donnera l'addict, c'est un esclave d'un genre particulier, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas payer sa faute. Il a commis une faute, mais il n'a pas d'argent. Donc, il va faire, en gros, les travaux d'intérêt général. Autrement dit, c'est un esclave de son propre corps. C'est avec son propre corps qu'il va payer. Il va faire un travail, etc. Il va être enchaîné à son propre corps. Il n'a pas de liberté du tout. Et il est quelqu'un qui reste, en quelque sorte, l'esclave de ses propres... Si on fait un peu d'extension du domaine de l'imagination sexuelle, aujourd'hui, l'addictus, l'addict, c'est quelqu'un qui reste esclave de ses propres pulsions.
Mariette Darigrand. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, aim, gonna fire, shoot me right.
like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly.
You know what you are? You are
sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along.
Give it
sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do.
Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm.
No.
This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need.
Tom Jones sur France Culture et son titre Sex Bomb, pur hasard de la programmation Françoise Degoy. Thibaut Henton, un autre procès se déroule en ce moment. Il n'a rien à voir avec le Carlton. C'est le procès Silk Road, une sorte d'Amazon de la drogue, et c'est bien sûr illégal, mais on en parle beaucoup sur Internet.
Oui, parce que ce procès à base de serveurs en Islande et de neuf langues geek a fait se croiser plusieurs questions relatives à la sécurité informatique et au Darknet, ce mot valise anxiogène qui amalgame grossièrement l'ensemble des échanges anonymes qui ne percent pas à la surface du web, comme relevant du côté obscur de la force. Alors, Ross Ulbricht, c'est le créateur de Silk Road, littéralement la route de la soie. La route de la soie, non pas celle que la Chine s'apprête à recréer en Asie centrale. Vous entendez sous ma voix le générique de la série Marco Polo, où il est question de l'ancienne route de la soie. Donc Silk Road, le site de commerce illégal en ligne, cette route de la soie-là dont il va être question, accessible anonymement via Tor, par laquelle transitaient toutes sortes de produits et services proscrits. Un commerce qui aurait généré 210 millions de dollars entre janvier 2011 et octobre 2013, dont 180 millions pour les drogues. Ces produits s'y échangeaient en bitcoin, la célèbre crypto-monnaie réputée intraçable, elle aussi. Ross Ulbricht, disais-je, qui reconnaît avoir créé la plateforme, mais a continué à nier pendant son procès l'avoir ensuite gérée, sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, a donc été reconnu mercredi à New York coupable des 7 chefs d'accusation qui pesaient sur lui, parmi lesquels participation à une entreprise criminelle, trafic de drogue, blanchiment d'argent, piratage informatique, etc. Le prévenu ne peut pas nier les faits. Il a été pris la main sur le clavier. His fingers on the keyboard, a conclu le procureur. Ses charges pourraient lui valoir la prison à vie. La sentence tombera le 15 mai prochain. Alors certains s'inquiètent du précédent que ce verdict, s'il était confirmé, pourrait constituer pour la liberté d'expression en ligne, et notamment quant à cette épineuse question de la responsabilité des hébergeurs. Quelqu'un qui fournit une plateforme à des internautes est-il ensuite responsable de leurs échanges? Bon, dans le cadre de Silk Road, où l'illégalité était patente, promue même, la responsabilité était plutôt évidente, mais tout cela peut vite dériver. Pendant les 3 semaines qu'il aura duré, le procès a eu des moments assez cocasses. Il a fallu par exemple s'entendre afin de rendre compte des émoticônes, vous savez, les smileys et autres petites figures sensibles qu'on ajoute à la fin d'un mail pour lui donner cher, une indication de ton ou d'humeur. Eh bien, quiconque mentionnait lors de l'audience un procès verbal contenant un de ces émoticônes devait les signaler. Et là, un smiley. Bon. Au début du procès, le juge voulait qu'un glossaire soit mis à disposition des jurés, expliquant ce qu'est une adresse IP, un code base, Bitcoin ou Tor. Ce glossaire ne verra jamais le jour. On ne peut pas en dire autant des sites marchands de drogue qui se sont multipliés depuis la fermeture de Silk Road. Toujours sur le réseau Tor, un moteur de recherche calqué sur Google a même été créé, lequel scanne différentes places de marché où trouver des doses à bon marché. Vous voulez son nom ?
Allez-y.
C'est facile à retenir. Grams.
Oui, c'est facile à retenir. Thibaut Henton, retour qui est applaudi par Françoise Degois.
Ah, mais non, mais c'est extraordinaire dans quel monde on vit, vous imaginez. Moi, je trouve ça, enfin, ça me fascine. Vraiment.
On y retourne dans le monde dans lequel on vit avec DSK, changement d'époque et changement de tonalité.
C'est l'homme politique le plus attendu du moment. À quoi ressemble la vie de Dominique Strauss-Kahn?
Qu'est-ce que vous racontez à ce moment-là?
La question vient toujours. Est-ce que il faut se présenter? Moi, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il se marre.
C'est finalement dans sa cuisine, en préparant un steak, que DSK commente les sondages.
Oui, ben ça, vous savez, c'est comme les gosses ont de la fièvre. Hein. Vous mettez le thermomètre dans les fesses des heures, vous avez la même fièvre, ça. Pour rien que parce que vous faites 25 fois, vous l'avez vu une fois, c'est pareil.
La bande-annonce du reportage Un an avec Dominique Strauss-Kahn, diffusé sur Canal+, le 13 mars 2011... Un mois avant, le Sofitel, avec Dominique Strauss-Kahn dans sa cuisine, en train de faire cuire son steak, son tourne-d'eau, nous dit Emeline Kazi.
Ouais, je me souviens des tournes, je crois que c'était des tourne-d'eau, il précisait. Ça me fascinait, on les voyait retourner dans la poêle.
Et on les entend. C'est l'époque où Dominique Strauss-Kahn est en tête dans les sondages, l'époque où peut-être, parfois, certains l'annoncent déjà comme le prochain président à coup sûr. C'est un reportage, comment dire, un reportage qui le met en valeur, Emeline Kazi.
C'est le même type de reportage qu'on voit dans Paris Match, à peu près la même période, il me semble que c'est mars 2011, où on le voit se promener dans les rues de Washington avec Anne Sinclair, essentiellement des photos, et c'est titré « L'amour toujours »,« L'amour pour toujours ». C'est des reportages...
Et on a pris l'affaire Pirozkhan-Nagy. Hein.
C'est ça, on est 3 ans après...
Donc la collaboratrice de Dominique Strauss-Kahn au FMI.
Et comme il est candidat... possible candidat à la présidentielle. Effectivement, ces reportages, on le voit au quotidien, on le voit comme les Français. On le voit, il fait la cuisine comme les Français, puis on le voit amoureux d'Anne Sinclair. Donc ça, c'est pour effacer et gommer l'épisode Pirozkhan-Nagy. Oui, on est dans une opération de communication.
Au Parti Socialiste, Françoise Degois.
Tout le monde en rage, je pense, de voir. Je pense pas, je suis sûre, parce que ça sonne tellement faux. Moi, je me souviens du Paris Match, mais je me souviens vraiment de son reportage avec les costards dans la baignoire, etc. Ça sonne, on dirait de la com' Jacques Vabre, et la vieille com', quand même, il y a des années 70 ou 80, qui marche. Et en même temps, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est que la communication politique, ça ne peut pas tout faire. Et ça, Dominique Strauss-Kahn, c'est ça qui est formidable, c'est la démonstration absolue que, à un moment donné, quand on fait de la politique à ce niveau-là, il y a quelque chose de supérieur qui emporte et qui reprend ses droits et qui fait craquer même le plus bel habillage de communication. On est dans une... Alors, attention, parce que je parle des communicants de Strauss-Kahn, mais quand même, honnêtement, les médias, zéro recul. Zéro recul. Au Parti Socialiste, tout le monde arrache parce que les gens sont un peu jaloux, donc ça, à la limite, c'est pas... Je pense peut-être au président de la République actuelle, et pas simplement lui. Donc il y a quand même, comment c'est possible qu'il y ait cette espèce d'avalanche comme ça de sujets aussi artificiels? Et c'est rassurant quand même sur l'opinion publique, et c'est rassurant aussi sur la mécanique. Alors ça, c'est la mécanique qui fait qu'à un moment donné ça se voit quand c'est faux, et Strauss, il commence déjà à sonner faux, et ça se voit et ça se sent, et finalement il n'y a rien qui résiste. La communication, même la meilleure, ne peut pas cacher ce qu'est un être humain, dans le bon et le mauvais sens d'ailleurs.
Alors, le dernier sondage sur Dominique Strauss-Kahn, paru la semaine dernière et diffusé dimanche dernier, montre que il a regretté que les Français pensent qu'il aurait fait un bon président, meilleur que François Hollande. C'est démoralisant, Emeline Kazi?
Non, c'est pas démoralisant. C'est quand même... Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on me pose cette question alors qu'il n'a aucune envie de retourner en politique et qu'il ne va pas retourner en politique. Cette question, elle est posée...
Parce qu'il sait qu'aucune femme ne voterait pour lui?
Je pense qu'il y a des femmes qui voteraient pour lui.
Vous pensez qu'il y a des femmes qui voteraient
pour lui? Il y a quand même cette théorie du complot qui court toujours. Et puis s'il sort, s'il n'est pas condamné au terme du procès du Carlton, ce qui n'est pas exclu, c'est compliqué.
Oui, parce que le parquet avait demandé un non-lieu.
Le concernant a demandé un non-lieu. Je pense que du coup, les réquisitions iront dans le même sens. C'est donc pas exclu qu'il ressorte sans aucune condamnation. Après, tous les communicants vont pouvoir dire « un nouveau départ pour Dominique Strauss-Kahn ».
Françoise Degois.
Rien, si ce n'est dire qu'effectivement, ça existe toujours. En politique, on n'est jamais mort. Mais la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dominique Strauss-Kahn en a envie? Je pense que non. Et la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'un jour il en a eu envie au point où on doit en avoir envie? Eh bien, je crois que non. Je pense que son entourage en avait plus envie que lui. C'est ce que je ressens quand même.
Tibouenton, retour cette fois-ci pour les images. Vous vous êtes arrêté donc sur une image, celle du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, 90 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Une bonne illustration du fait qu'en politique, on n'est jamais mort. La scène se passe à Harare, la capitale où le président, au pouvoir depuis 35 ans, et dont l'état de santé est pour le moins mystérieux, prononçait un discours à son retour d'Éthiopie. Le voilà, qui descend de l'estrade et se prend les pieds dans le tapis rouge. Vite relevé par sa cour, il s'engouffre dans sa voiture. La scène serait sans doute passée inaperçue si le pouvoir n'avait essayé d'étouffer l'affaire, la propulsant ainsi sur le devant du web, selon une mécanique désormais bien huilée qui veut que toute tentative de censure d'un document déjà public se retourne en déversement ininterrompu du dit document, aussitôt détourné, retourné, diffusé, etc. À chaque fois, des dizaines d'articles sont pondus auxquels il faudra désormais ajouter cette chronique. Avez-vous vu le dernier mème avec Mugabe ? Connaissez-vous l'effet Streisand ? Oui, comme Barbara, ou l'effet Flamby ? Tapez ça dans Google pour voir. Bref, une occasion supplémentaire de se gargariser de la puissance ubiquitaire du réseau qui excelle dans l'art de la variation moqueuse autour d'un thème. Ainsi, Mugabe se retrouve-t-il à moitié plié sur lui-même, non plus trébuchant, mais surfant en pleine mer, poursuivi par une matraque sur un balai de sorcier au départ d'un 100 mètres avec Usain Bolt, ou en Corée avec Beyoncé, cavalier, funambule, et j'en passe. Tout cela est visible sur Twitter, notamment mot-clé Mugabe Falls. Ce que nous ignorons, en revanche, c'est si, passé le même, cette chute est susceptible d'entraîner une quelconque élévation.
Thibaut Henton, le clin d'œil de cette semaine, signé Nathalie Lopez. Nathalie Lopez, inspirée par Michel Audiard.
Quand les circonstances l'exigent, ont en flingueur une volonté de faire dans une diplomatie de velours.
C'est lui qui parle le premier, tout rond, air débonnaire, dodo, plaisante avec le président sur ses activités. Ce n'est pas une droguerie ou une épicerie. Il parle de ses indépendantes en qualifiant les prostituées comme un chef d'entreprise dirait « mes collaborateurs », dit-il.
Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action.
Alors, si on devait faire une affaire chaque fois que des prostituées fréquentent un café et un 5 étoiles, on fait 300 affaires par jour. La station de Courchevel se ferme, il n'y a plus d'hôtel.
Il vient de se faire bombarder vice-président du Fonds monétaire international.
C'est le protagoniste le plus célèbre de l'affaire. Dominique Strauss-Kahn est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Il a eu des rapports avec des prostituées venues spécialement de l'île et même de Belgique.
Voyons chérie, monsieur fait la traite des blanches.
C'est moi qui aurai amené dans des parties fines des filles dans des appartements à Lille, alors que les filles ont un statut d'indépendance, c'est reconnu par un arrêt de la cour d'appel, et qu'elles font ce qu'elles veulent dès qu'elles ont quitté l'établissement.
Les Tontons Flingueurs est un film instructif qui vous apprendra à régler vos comptes
comme en pâte de sandwich.
Entre metteurs ou participants, au total 14 personnes sont prévenues dans ce procès. Elles encourent jusqu'à 10 ans de prison.
Vous, qui rêvez d'une liquidation rapide de votre entourage immédiate, attendez d'avoir vu Les Tontons Flingueurs. Ne tuez pas sans savoir.
Le clin d'œil de Nathalie Lopez. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Emeline Cassi, journaliste au Monde. Je peux mentionner votre livre, Le vrai Cohn-Bendit chez Plon. On peut encore le commander.
Oui, on peut encore le commander.
Françoise de Goua, chroniqueuse sur iTélé. Et votre livre, Quelle histoire, Ségolène Royal et François Hollande, est paru l'été dernier également chez Plon. Antoine Maretz, grand reporter à France Culture, était avec nous.
Livre. Mais bientôt.
Mais c'est en préparation. Merci. Merci également à Axel Krause qui nous a rejoint en cours d'émission. Axel Krause, correspondant du Transatlantique Magazine et président de l'Association de la presse anglo-américaine de Paris. Axel Krause qui était en duplex avec nous au téléphone. Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Mariette Darigrand, notre sémiologue et au secret, et Thibaut Henton pour les images et le web. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation de l'émission et le site franceculture.fr avec aux manettes cette semaine Dophar Guéride. Dans un instant, le journal de Julien Lagache suivi de répliques. Charles Maurras et ses héritiers, Alain Finkielkraut, reçoit François Huguenin et Olivier Dard. C'était le secret des sources sur France Culture à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
Et effectivement, ces reportages, on le voit au quotidien, on le voit comme les Français. On le voit, il fait la cuisine comme les Français, puis on le voit amoureux d'Anne Sinclair. Donc ça, c'est pour effacer et gommer l'épisode Pyrrhus Kanagi. Oui, on est dans une opération de communication.
Ça sonne tellement faux. Moi, je me souviens du Paris Match, mais je me souviens vraiment de son reportage avec les costards dans la baignoire, etc. Ça sonne, voilà, on dirait de la com' Jacques Vabre et la vieille com' quand même. Je parle des communicants de Strauss-Kahn, mais quand même, honnêtement, les médias, zéro recul. Donc, il y a quand même, comment c'est possible qu'il y ait une espèce d'avalanche comme ça de sujets aussi artificiels.